Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sico en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Restons courtois. Pierre-Alexandre Bouclet.
Merci, oui, chers auditeurs. Donc, si vous êtes susceptible de payer l'IFI et d'en faire profiter Radio Courtoisie, et si vous n'êtes pas dans cette, dans ce cas de figure finalement assez rare tout de même, n'hésitez pas néanmoins à nous soutenir, puisque même un don de 5 euros ou de 1 euro nous est profitable, puisqu'encore une fois, chaque euro compte dans le combat que nous menons, dans cette guerre de la réinformation que nous essayons de mener depuis bientôt 39 ans et qui n'a jamais marché qu'avec le soutien de nos auditeurs les plus militants. Comme le dit souvent Richard de Sèze, voilà, nous avons 1,5 million de personnes qui écoutent toute la semaine, pour une semaine donc. Nous sommes proches d'Europe 1 dans le secteur où nous avons la bande FM. Et néanmoins, voilà, nous manquons encore de donateurs. Nous avons 17 000 donateurs. Il nous en faudrait 20 000. Ça n'est pas beaucoup. Il manque presque rien. Et si parmi tous ce 1,5 million de gens qui écoutent, il y en avait 3 000 seulement qui se décidaient à rejoindre la cohorte des braves, des auditeurs militants qui, eux, s'engagent et qui font vivre leur radio, ce serait vraiment, vraiment formidable. Pas besoin de payer l'IFI, simplement dans la mesure de vos moyens. Voilà, merci à tous pour votre soutien que j'espère chaleureux et efficace. Et nous passons maintenant à notre premier sujet du rendez-vous de la réinformation, c'est la pétition anti-Bolloré. Donc 2400 personnes, à l'heure où je parle, ont signé cette pétition qui proteste contre l'influence qu'exercerait Vincent Bolloré sur son groupe, ce qui est quand même un peu gonflé. Et son groupe, donc Canal+, il est actionnaire majoritaire de ce groupe, et les signataires, donc notamment des personnalités comme Blanche Gardin, Adèle Haenel, Juliette Binoche, Anna Mouglalis, Swan Harlow, Charles Berling, décidément, Agathe Bonizer ou Jean-Pascal Zadi, alors lui qui est un phénomène dont, comme disaient nos grands-mères, il a de l'avance au gâteau, je ne sais pas si... Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il y a les dents un peu en avant. Enfin, un peu. Énormément en avant, voilà. Et il est surtout, il a des comportements qui pourraient laisser supposer un racisme anti-blanc assez décomplexé. Il a notamment fait des petits films musicaux où il a des comportements assez outrageants avec une jolie blonde déguisée en Marianne. Voilà, donc Jean-Pascal Zadi, c'est ce genre d'individu.
Qui avait rendu hommage à Adama Traoré lors d'une cérémonie des Césars. Ah bah. Adèle Haenel avait dénoncé Polanski, donc il y avait les bons, les mauvais violeurs.
Ah bah.
C'était assez amusant.
Évidemment. Et donc, bah voilà, tout ce petit monde dénonce, là je les cite parce que c'est quand même toujours très drôle, une emprise de l'extrême droite sur le cinéma. Je vois que Jean-Yves Le Gallou tremble.
Ça fait peur.
Je le sens, là. Il est
ébranlé. Vous pouvez rajouter des étrangers qui sont rajoutés à la signature. Il y a Mark Ruffalo, l'acteur américain gauchiste, Javier Bardem, Aléfiste, pareil. Ken Loach, qui a toujours été de gauche.
Ken Loach, oui.
Ils ont profité de Cannes pour grappiller quelques signatures.
Pour grappiller quelques signatures, oui. Et malgré tout cela, donc, le président du directoire de Canal+, qui s'appelle Maxime Sada, a annoncé qu'il boycotterait ces personnes, ce qui a quand même contribué à calmer quelques ardeurs. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette pétition qui est... dont le sujet est encore d'actualité. Jean-Yves Le Gallou ?
Ben, moi, ça m'a fait penser la riposte de Saada et les conséquences de la riposte de Saada à la formule très ancienne
de, Druon.
De Maurice Druon, oui. La sébile ou le cocktail Molotov, ça remonte, je crois, à 1973, où il dénonçait les milieux culturels comme se promenant avec la sébile et le cocktail Molotov. Et au fond...
C'est vrai que c'est exactement ça.
À la suite de... La réaction de Saada en disant, bah, écoutez, s'ils nous considèrent comme des fascistes, bah, on ne va plus travailler avec eux. Ils ont très vite montré qu'entre la sébile et le cocktail Molotov, ils allaient choisir la sébile. Et on a vu des intermédiaires du cinéma, du CNC, se proposer un peu comme juge de paix. On a entendu là. Des signataires dire, il faut se mettre à table pour discuter. Ce qui est tout de même assez drôle, puisqu'on avait parlé avant de fascisme et d'extrême droite, et d'un seul coup... quand la sébile se rappelle à l'ordre, eh bien, on se remet à discuter.
Oui, d'un seul coup.
Je trouve ça très drôle.
Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que si c'était vraiment un groupe fasciste, normalement, ils auraient dû dire, par une déclaration et non pas une pétition, « Nous cessons de travailler avec Canal+, point. »
Oui.
Et nous ne voulons plus de l'argent sale de ces gens.
Nous remboursons les 10
nous
ans.
Remboursons.
Nous remboursons les 10 ans de subvention de Canal+.
Voilà.
Enfin, l'argent sale ne passera pas par moi.
Exactement.
Moi, ça m'a fait penser, vous savez, dans le Robin des Bois de Walt Disney, le shérif de Nottingham est un blaireau. Et à un moment donné, au début du film, il arrive et il y a un petit lapin qui tend sa sébile et il sort une pièce, il la fait violemment tomber au fond de la sébile et du coup, la pièce qui est au fond jaillit et le shérif rafle les deux pièces. Et donc, je me suis dit, Maxime Saada est en train de leur faire le coup du shérif de Nottingham. Enfin, voilà. Et c'est, en fait, je n'ai qu'un désir, c'est qu'il aille au bout, quoi. En fait, c'est comme Bruce. Non pas dans le blacklistage, parce qu'en fait, il n'y a pas de, en fait, y a, personne n'est blacklisté. Personne n'est inscrit sur une liste noire. Il y a juste des crétins qui ont dit, tiens, vous êtes un sale fasciste, vous êtes en train de coloniser notre imaginaire, qui est un imaginaire de paix, de joie, de couleurs et de licorne. Et vous voulez y substituer des bruits de bottes et de la gadoue. Et l'autre, tu dis, bon, ok, très bien, bah, aller faire ça chez les autres et qu'effectivement il y a des gens qui disent bah non en fait voilà on va pas vous insulter en nous filant votre blé. J'ai peur que Maxime Saada recule en fait.
En fait moi aussi que ce ne soit que de l'intimidation.
Ah, je pense pas non.
Arthur de Vatrigan.
Je pense pas. Alors premièrement il n'y a pas de blacklist.
Ce serait un peu
effet,
comme au JDD
que...
ou chez Grasset, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit
il y a un précédent chez
dégager,
Canal+, qui est plus intéressant. Alors déjà ils sont autolistés donc le macartisme.
Oui la liste noire est facile.
c'est quand même un peu étrange.
Je
de
tiens
dire,
absolument à m'inscrire sur la liste des suspects. Bon bah très bien.
C'est... Et après ils disent mais pourquoi on me liste. Oui bah il s'est autolisté. Ensuite c'est assez amusant parce qu'on voit quand même un moment de bascule. Il y a eu la réponse de Saada. On a eu le LFI qui pose une question sur Gilles Lelouch sur
le film de Jean Moulin,
la conférence de presse sur Jean Moulin, une question très marrante où il explique que le RN sont les amis de Klaus Barbie et que les seuls qui peuvent lutter contre Klaus Barbie c'est LFI, donc que pense Jean Lelouch, Gilles Lelouch qui leur dit bah votre question est un peu orientée, je vais pas répondre. Je suis pas certain qu'il y a 10 ans et il y aurait eu cette réponse-là.
Absolument.
Il y aurait eu, oui, mais peut-être qu'il ne faut pas, mais en effet, il y a le danger d'extrême droite. Là, pas du tout. Ensuite, on a vu beaucoup de gens défendre Canal+. Mathieu Kassovitz, Farrugia. Il y avait un débat, Adèle Exarchopoulos et Sarah Giraudeau. Et Sarah Giraudeau, oui, disait en réponse à Adèle Exarchopoulos qui expliquait qu'on a le droit de parler. L'autre expliquait, oui, mais bon, en même temps, il faut arrêter d'être aussi toujours dans un camp et peut-être qu'il faut être aussi intelligent. Donc, on voit une nouveauté. Et la nouveauté également, c'est que jouer au Jean Moulin pendant 30 ans, ça coûtait pas une thune et même ça en rapportait, ça vous ouvrait des portes et puis vos milieux vous applaudissaient. Parce que Jean Moulin, il est mort sous la torture. Et là, il découvre bah, que la résistance, c'est un petit prix. Eux, pour 500 balles, ils sont prêts à se coucher et à parler. Quoi. C'est ça la réalité et on le voit tout de suite.
Et pour ah oui, mais ça c'est impressionnant en fait.
Ah bah évidemment.
Moi c'est ce que j'ai trouvé
quand
de plus
réjouissant. Quand ça coûte un peu, il n'y a plus de résistance.
C'est cette lâcheté de ce monde du spectacle qui couine, qui gueule et qui se dit en fait bah, ça va être comme d'hab.
Oui.
Et puis
et en fait, non,
Bolloré
c'est pas comme d'hab.
Va se taire et on va nous donner un peu plus de sous pour qu'on la ferme. Et là, non, t'es viré.
Oui, mais c'est ça.
Et, ouais, non, c'était pour rire. Et il y en a même qui ont dit... il révèle bien son tempérament parce que si on
preuve.
Peut plus l'insulter sans qu'il se défende, c'est quand même...
C'est bien la preuve que c'est un fasciste.
C'est bien la preuve.
Mais
que
après,
c'est un
on voit toujours qu'il y a quand même un monopole de la représentation dans cette affaire-là. Il y a eu un... il y a le poupouche de la gauche sur le milieu culturel, et c'est toujours les mêmes porte-parole autoproclamés qui pétitionnent. Et si vous regardez, la majorité ne disent rien, puis si on fait les... En fait, j'aurais bien aimé la faire, mais finalement je ne vais pas la faire parce que je ne suis pas sûr que ça les arrange, mais faire la liste de tous ceux qui n'ont pas signé. Bon, bizarrement, ça va être beaucoup plus intéressant, et en nombre d'entrées, et en notoriété, et en nombre tout court.
Et surtout,
mais
je
me dis, c'est pas sympa pour, c'est pas sympa
pour ceux qui n'ont pas signé. Mais la ministre de la Culture a expliqué quand même que cette pétition avait un impact, alors qu'à mon avis, elle exagère grandement, sur le monde du cinéma, qui emploie, enfin plutôt que la querelle Canal+ pétitionnaire avait un impact sur le monde du cinéma, qui emploie 260 000 personnes.
Oui.
Et on a 2 000 signataires. C'est quand même... sur 260 000, ça veut quand même dire qu'il y en a 258 000 à la louche qui n'ont pas signé.
Oui, non, mais il y a un monopole.
Ça
de
doit faire quelque chose de 99% de gens qui s'en fichent.
C'est une prise d'otage. Mais pour le ce qui est amusant, pourquoi je vous dis que Saada ne va pas céder, c'est qu'il y a eu un précédent.
Alors,
il faut comprendre le système financier, c'est... Canal+ est contraint de financer le cinéma. Parce qu'il y a par des logiques de préachat, par des logiques de... comme c'est une chaîne payante, les chaînes hertziennes et les chaînes payantes sont contraintes de financer également. Mais il y a une large de manœuvre sur la négociation. C'est-à-dire qu'eux, ils sont les premiers financeurs parce qu'ils payent le fait d'être les premiers à diffuser à la télé.
Oui.
Et déjà, l'enveloppe qu'ils payaient
avant...
C'est six mois. Là, ils payent environ 170 millions d'euros par an.
Oui.
Et ils ont le droit ils sont les premiers à diffuser, quoi. Les films qu'ils ont préachetés, ils les diffusent au bout de 6 mois. Sauf que l'enveloppe d'avant était plus importante. Mais il y a quand même une contrainte légale. Mais je vous rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années pour les droits du foot français. Les droits du foot français ont été historiquement détenus par Canal+. Ils tournaient autour de 400 à 700 millions d'euros pour la plus grosse année d'achat des droits. Là, puis ils ont voulu négocier à la baisse parce que forcément, le produit marchait un peu moins bien. Et la Ligue professionnelle de foot commence à négocier, dit « Ouais, mais on aimerait bien un peu plus », et Canal+ dit non. Et là, vous avez un Espagnol qui débarque et qui pose 1 milliard sur la table. Donc, le partenaire historique se fait envoyer bouler, mais avec tout le mépris et en oubliant tout l'historique par les décideurs en disant « Ah, ils ont débouché le champagne, Canal+, va te faire voir, on a récupéré 1 milliard ». Sauf que l'Espagnol s'est révélé être un escroc. Et donc, ils se retrouvent sans rien. Et là, ils vont voir Canal+, en disant, est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'argent ? Et Canal+, ça fait 5 ans qu'il les balade. Tout ça pour vous dire que le cinéma, c'est une industrie. Donc, une industrie, c'est un marché. Même si vous avez des règles politiques, c'est un marché. Et la question, c'est le produit. Donc, là, on a commencé à avoir des gens qui disent, oui, mais si Canal+ part, c'est pas grave, on ira voir Disney, on ira voir France TV. C'est exactement ce qu'a dit le foot. Le foot a dit ça. Sauf que la réalité, c'est quoi ? Ça vaut quoi, le cinéma français aujourd'hui ? En fait, ça vaut plus rien. Donc, personne va mettre sur la table ce que met Canal+ aujourd'hui.
Absolument. Et d'ailleurs,
ils vont négocier.
On le voit aujourd'hui avec Disney, parce que quand vous avez parlé du droit de retransmettre les films 6 mois après, Disney a négocié le droit de rediffuser les films sur ses propres chaînes, ses propres plateformes, 9 mois après, mais pour un montant de 35 millions et pas de 165.
Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Ce qui fait un tout petit peu à réfléchir, parce que ça veut dire ça fait cher le mois.
Mais c'est ce qui s'est passé avec le football. Le football, sont les voir Amazon. Et Amazon leur a filé 50. Canal, c'était 600. Parce que si vous regardez, comme c'est une industrie, c'est un marché, qu'est-ce que ça vaut ? Vous reprenez les dates, l'historique des entrées. 2019, on a 213 millions d'entrées dans le cinéma, dans les salles françaises, sachant que 40% uniquement, c'est le cinéma français. 2025, 156 millions d'entrées. C'est ça la réalité. Donc le produit dévalorisé. Et miracle des subventions ou des taxes obligatoires, le nombre de productions a augmenté. Les entrées baissent, les mecs produisent plus. Sauf que un Américain, un fonds, alors on oublie français parce qu'il y a plus d'oseille qui traîne, donc ils ne pourront pas racheter, même s'ils disent qu'on pourra.
Ils ne donnent que 36 millions, si je ne m'abuse.
Parce qu'il n'y a plus un rond. Donc les Américains ou même des Chinois qui voulaient, ils vont regarder ce que vaut le produit. Le produit, il ne vaut pas ce que file Canal aujourd'hui. Donc même s'il y a des obligations légales, les obligations légales, elles ne sont pas sur le montant, elles sont sur la contribution. Ils peuvent très bien dire, en fait, ça vaut plus ça, je me réoriente et tout. Et Canal+, au moment du foot encore, je me rappelle, c'est Canal+ sans le foot, il n'y aura plus d'abonnés. Comme on entend aujourd'hui, Canal+ sans le cinéma, il n'y aura plus d'abonnés. Ça a raté pour le foot. Et on est exactement sur les mêmes dispositifs, à la différence que le foot, il n'y avait aucune obligation légale. Là, il y en a un peu. Mais dans cette obligation légale, Canal+ peut faire beaucoup de choses.
Oui, bah déjà, ils peuvent réellement cesser de subventionner des films où figureront les signataires. Xavier Van Leerde, est-ce que vous avez un avis sur cette pétition ?
Oui, enfin, je trouve que c'est révélateur d'un système qui arrive à bout de course, parce que ce à quoi on assiste en réalité, ce sont des règlements de compte un peu endogamiques entre les financeurs et les créateurs qui entretiennent des liens depuis longtemps. Enfin, ce qui me frappe, c'est que l'ensemble de l'écosystème des créateurs du cinéma français, que ce soit les réalisateurs ou les acteurs, se sont coupés de leur public depuis des années. Se paye le public, c'est le peuple français en fait, hein, les Français dans leur ensemble, se paye le luxe de les insulter en permanence. La fréquentation des salles est en chute libre, il y a un véritable divorce, il n'y a plus un film français, enfin, rares sont les films français qui font encore rêver, je ne parle même pas de la cérémonie des Césars qui montre la béance entre ce milieu et son public naturel, et ils s'en fichaient éperdument. Éperdument, ça ne change rien, au contraire, ils en avaient presque une jouissance. En revanche...
parce qu'ils se sentaient comme une avant-garde, payés d'avance grâce à l'argent du cinéma, justement.
Oui,
c'est-à-dire un argent qui n'est pas indexé sur le nombre d'entrées.
Oui,
heureusement.
Oui, et en revanche, heureusement, lorsque le financeur tape sur la table, là, ça devient sérieux et tout le monde fait coucouche panier. Mais c'est un petit peu triste, en réalité, un petit peu triste. Le troisième acteur reste, malgré tout, je trouve... assez absent du tableau, sauf à penser que Maxime Saada et le groupe Canal+ décident de prendre davantage en compte justement les attentes du public. Pour l'instant, il n'est pas dans le tableau. Nous ne sommes pas dans le tableau. Le système continue à fonctionner dans une espèce de relation univoque entre le financeur et les créateurs. Et nous assistons à ce spectacle un peu dépité comme un tableau d'où l'on reste absent.
Mais est-ce que néanmoins il n'y a pas quand même une satisfaction à tirer de l'attitude de la majorité du monde du spectacle ? C'est-à-dire que là ce qu'on a c'est quand même 2400 signataires qui se sont jetés tête baissée en se disant ça va être comme d'hab, on fait une pétition, on en tire un peu de gloriole parce que c'est le festival de Cannes et on va à la limite avoir des beaux contrats encore plus beaux plus tard. Et là pas du tout. Et en fait tout le monde leur dit mais maintenant la ferme. Et il y a quand même, d'un point de vue politique, peut-être ce sentiment, enfin c'est ce que je me suis dit, si un jour on voit arriver le Rassemblement National au pouvoir, longtemps je me suis dit il va y avoir des blocages, ça va être compliqué, LFI appelle à l'insurrection, mais je me dis peut-être la lâcheté des gens aidants, peut-être qu'ils vont simplement se taire et faire ce qu'on leur dit. Parce que, bah, effectivement, tout le monde n'est pas Jean Moulin.
En effet. Bah, ils résistent quand il n'y a pas de résistance en face.
Sauf qu'en plus, ce ne sont même pas des Jean Moulin, ce sont des vermines. Mais c'est intéressant, non ? Est-ce que ça n'est pas une attitude
qui
est encourageante ?
C'est plutôt plus cher que Jean Moulin, si je puis me permettre.
Ouais, c'est vrai. Non, mais on a effectivement vu que l'antifascisme est toujours un théâtre, même au cinéma. Ça, c'est assez réjouissant et c'est rigolo. Mais l'issue, quand même, à la situation absolument scandaleuse à laquelle nous assistons depuis des décennies, ce serait que, comme vous l'avez dit, qu'enfin, ils écoutent ce qu'on leur dit. Mais ce « on », c'est Maxime Saada. C'est-à-dire que oui. Nous sommes nous réjouir qu'un financier obtienne gain de cause sur des créateurs. Ce qui est sain, que ce soit pour les médias, pour les associations, ou pour la création artistique grand public, eh bien, à mon avis, c'est plutôt que les médias soient financés par les gens qui les écoutent, tel le modèle de Radio Courtoisie, que les associations vivent des dons et de l'action de leurs membres, et que les films, en l'occurrence, vivent préférentiellement des tickets d'entrée pris dans les salles de cinéma par le public. On peut pas sans cesse laisser le public en marge.
Alors, Xavier, j'aurais peut-être juste une objection en tant que cinéphile, en tout cas velléitaire, enfin, j'aimerais être plus cinéphile que je ne le suis, parce que le nombre de daubes, et notamment dans le cinéma français, qui nous tombent dessus et qui font malheureusement les grosses entrées comme les Tuches, comme Bienvenue chez les Ch'tis, comme un nombre incalculable de comédies, mais pourri, avec des scénarios minables, oui. Et avec des salles pleines Alors, peut-être parce qu'on les sort dans un nombre de salles. Les Létuches, par exemple, quand ça sort,
oui.
ça sort dans 900 salles en France. Donc, forcément...
Parce qu'on sait que ça va marcher.
Alors, est-ce que c'est parce qu'on sait que ça va marcher ou est-ce qu'on se dit « ça doit marcher, donc on fait 900 salles ».
Non, on sait que ça va marcher.
Parce que là,
vous êtes désespérant, mais...
C'est les Français qui sont désespérants de mauvais goût.
Létuches, on en est au quatrième et Jean-Paul Roux a expliqué qu'il allait faire un référendum pour choisir le sujet du cinquième. Je pense que c'est le seul référendum qu'on va réussir à organiser en France sous Macron.
Létuches à l'Élysée.
Mais en fait, je vous trouve... moi,
Chafouin.
Oui. À pied, à cheval et en Spoutnik, grand succès des années 50. Effectivement, n'est pas une comédie absolument admirable, mais voilà. En même temps, on avait droit à du Bresson. Donc, le fait qu'il y ait à la fois du cinéma entre guillemets populaire de mauvaise qualité, du cinéma populaire de qualité et du très bon cinéma, tant mieux. On est tous en train de se gargariser avec le Corneau, qui est quand même pas, qui est drôle, mais enfin, c'est pas non, on est un peu loin du chef-d'œuvre. C'est pas non plus du Bergman avec le Septième Sceau. Hein, voilà, mais malgré tout, ça se laisse regarder.
Alors, je dois avouer que Bergman, ça me saoule aussi. En fait, vraiment, je vais plutôt lire des bouquins parce que
non, voilà, c'est. On en parlait avec Xavier Aymon tout à l'heure, on a besoin, en fait, effectivement, d'une politique culturelle, on a besoin d'une subvention, on a juste besoin que ce soit honnête, que les commissions d'avance sur recettes soient ensuite remboursées des avances qu'elles ont faites, plutôt que ça ne profite systématiquement au même producteur qui organise, en fait, entre la société de diffusion, la société de distribution, les subventions, en fait, une rentabilité artificielle sans qu'il y ait de sanctions en salle. Voilà. Donc moi, je serais assez, comme d'habitude, pour un système libéralo-étatique où le roi capture des gens à Murano pour venir installer une cristallerie à Saint-Louis, et où là, on irait sans doute voler Golshifteh Farhani en Iran et deux ou trois réalisateurs aux États-Unis pour les installer
avec des troupes d'élite américaines
dans une cité du cinéma en Seine-Saint-Denis pour faire des bons films, voilà, et qu'on donne de l'argent à des bons réalisateurs, voilà, français qui pour le moment n'arrivent pas à monter leur film.
Arthur Matrigan et ensuite Xavier.
Et je rajouterais aussi qu'il y a le compte de soutien automatique qui est assez sympathique, c'est qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans le CNC et qu'on vous a agréé, donc financé via de multiples commissions. Ensuite, que le film soit rentable ou pas, le producteur touche automatiquement un pourcentage pas du bénéfice, mais du chiffre d'affaires pour financer le prochain film.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun risque.
Dans celui-là, il n'y a pas de risque. Mais par contre, je suis d'accord, évidemment, avec Richard, parce que c'est quand même notre politique culturelle. En tout cas, le système était une belle idée. Franchement, de me dire qu'on va financer sur le dos des Américains pour financer nos films... La préférence nationale, je l'ai mis en partout. Quoi. C'est le cas là. Le problème, en effet, c'est vous avez une minorité qui est sociologiquement la même, qui décide depuis 30 ans. Donc forcément, si vous regardez les films, en termes de métier, c'est la fonction publique, c'est les artistes, ce sont les flics. Le reste, il n'y a pas. Et concernant les villes tournées, c'est Paris et la banlieue. Vous dire à l'époque sauter tourner un peu en province, Corneau aussi, il y a plus ça. Bon, on voit que sociologiquement c'est la même, mais de toute façon l'art reflète l'idée, les idées dominantes. Les idées dominantes, elles sont dans la bourgeoisie, donc c'est un art qui est citadin, qui est bourgeois et qui est progressiste parce que ce sont eux qui décident qui fait quoi. Mais le système, il est bon. Moi, quand j'ai entendu le RN arrive au pouvoir, ça m'a inquiété pour la culture. Hein. Parce que j'entends Sébastien Chenu sur France Inter qui explique à quoi on juge un bon film au nombre d'entrées. Mais je me tire une balle parce que je n'ai pas envie de m'en tirer une. C'est ça la réalité. Les types, le problème de la droite, il faut regarder en Italie. Meloni réussit plein de trucs, en culture, c'est une catastrophe. Donc, moi, je suis assez inquiet parce qu'en effet, on voit un point de bascule où l'hégémonie de gauche est contestée. Mais je vois aucune proposition en face, sinon la destruction. Les mecs, ils disent on va détruire le CNC. Super. Et on fait quoi derrière? Rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas une idée culturelle. Et
oui,
si
parce qu'en plus, ils ne voient pas qu'en fait, que pour le moment, ceux qui ont l'argent. Ce sont des types comme Mathieu Pigasse. Donc, si on détruit le CNC, au lieu de retourner le CNC, on va se retrouver qu'avec Mathieu Pigasse, qui va nous financer de la dope de gauche.
Exactement. Et en plus, si la gauche a pris en otage ce lieu-là, c'est parce que la droite l'a déserté. Hein. Demandez à n'importe qui dans les familles, moi, mon fils, il veut être comédien. Bon, on va faire une école de commerce. C'est ça, la réalité. Donc en fait, on dit non, tu vas pas être comédien, non, c'est du saltimbanque, non, c'est pas un métier, non, c'est pas ça, non, c'est un truc de gauchiste, non, c'est un truc de PD, non. On l'a entendu 10 000 fois. Donc moi, je gueule contre l'hégémonie culturelle de gauche, très bien, mais je gueule contre ces bourgeois de droite qui ont dit non, on va faire du fric plutôt que faire de l'art. Oui. Et donc le problème, il est là, c'est que la droite est inculte. Et quand je dis la droite, c'est que je veux à aucun moment, je veux une politique culturelle de droite, hein. J'en veux surtout pas, quoi. Les films de droite qu'on a ensemble parce qu'ils sont de droite, ils sont encore plus mauvais que les films de propagande de gauche. Donc je veux pas ça, je veux juste une œuvre.
C'est comme le rock identitaire.
C'est le principe qui est là. Donc ça bouscule, il y a une bascule, ça peut changer, c'est frité, mais derrière on ne propose rien.
Alors Xavier Van Lierde, est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour sauver le cinéma français ?
Non, j'ai pas quelque chose à proposer, mais je voudrais rebondir. Enfin, bien évidemment, je pense pas que la qualité d'un film se juge uniquement au nombre d'entrées qu'il fait. En revanche, il est probablement quand même nécessaire, d'une part, que les films trouvent leur public. À l'évidence, oui. Le cinéma dit d'art et d'essai prétentieux n'en est pas réellement. D'une part, on n'est pas époustouflé par la créativité, la beauté, on n'est pas touché par ces films-là.
Il n'y a pas d'audace, c'est vrai.
Oui, ça manque d'audace, c'est pas leur très grande qualité qui fait qu'ils ne trouvent pas leur public parmi les Français, c'est plutôt parce qu'ils sont à la fois nuls, idéologiquement,
et pontifiants,
trois donneurs de leçons et pontifiants. Et d'une certaine façon, je pense que le système, qui est effectivement bon parce qu'il permet malgré tout la survie d'une industrie cinématographique française, et ça c'est nécessaire, a un effet pervers absolument épouvantable. Il se trouve que dans ma famille et mes amis, je connais quelques personnes qui travaillent dans le cinéma, et ce qu'ils m'expliquent, peut-être force-t-il le trait, c'est que les films ne sont plus tant construits sur une proposition artistique, un désir de créer un message ou autre, mais plutôt pour rentrer dans les cases du système, c'est-à-dire que, par exemple, on va choisir tel ou tel... L'idéal, c'est de choisir tel ou tel acteur dont il a été décidé qu'il était... Zut, je trouve que le mot anglais bankable,
star,
qui allait être rentable.
Rentable, oui.
Rentable, mais rentable dans de très fortes proportions, et que là, après, le scénario avait assez peu d'importance, à part le conformisme idéologique. Bref, le processus de création est complètement parasité par la machine administrative et la façon dont il faut aller chercher des avances sur recettes selon des critères qui tuent en réalité la création, alors que... faire le réac, mais dans le cinéma
à la papa, quand même, par exemple,
dans le cinéma à la papa, et jusque, vous allez voir que je ne suis pas si réac que ça, dans la nouvelle vague, c'était quand même plutôt des gens qui prenaient énormément,
60, ça va.
Énormément de... Oui, enfin, c'était une avant-garde. Hein,
voilà. Je suis d'accord.
C'était une avant-garde assez à droite, d'ailleurs.
Mais oui, on ne peut pas relancer ce débat parce que c'est complexe. Multiple. Mais en tous les cas, c'était des gens qui prenaient des risques et des risques personnels parce qu'ils avaient quelque chose à dire et de nouvelles méthodes à avancer. On ne trouve plus ça aujourd'hui parce qu'en fait, ce sont des gens qui tendent effectivement la sébille et qui construisent tout pour choper le max de subventions. Voilà, je suis forcé de le constater.
Ouais, c'est vrai.
J'aimerais être séduit, je ne le suis plus.
Le drame, c'est qu'on voit 85% des films français, on voit que le type qui filme, il croit pas à ce qu'il filme.
Oui, ça c'est sûr.
Et c'est pourquoi j'ai toujours une petite passion pour Besson, malgré toute sa bêtise et son écriture qui est nulle, il croit sincèrement à ce qu'il filme, et ça se voit. C'est vous dire, dans le degré de médiocrité, on voit le type qui croit, l'autre qui croit pas. Mais en fait, le problème, c'est si on veut faire une refonte de tout ça, la question c'est à quoi on juge un film, et ça c'est hyper compliqué, parce qu'il y a le nombre d'entrées qu'il faut prendre en compte, évidemment, parce que c'est une industrie. Un écrivain, il pond son livre, il a besoin de rien d'autre. Un musicien.
Enfin, là aussi, voilà. avec l'affaire Grasset, on voit bien qu'il y a des gens qui sont payés pour écrire des bouquins qui ne se vendent pas.
Non, je suis d'accord. Mais donc,
et Pascal Ménadier en parlait à l'antenne, c'était excellent.
Il faut prendre ça en compte. Ça, c'est important. Mais
en fait, il y a aussi une politisation actuelle.
Et la question, c'est comment on remplace le système.
En fait, c'est triste parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas faire l'envers. Ça serait triste.
Non, il faut pas. Il faut en fait, il sait quelle est la légitimité.
Mais d'abord, il faut quand même nettoyer et assainir.
Bah attends, vous voyez dans les commissions. Je suis en train de bosser dessus, je m'amuse, quoi. Dans les commissions, on retrouve... Alors la seule qui a une légitimité pour des films, parce qu'elle a fait un film, c'est Caroline Fourest qui a été les avances sur recette. Bon, son film était merveilleux, elle a montré qu'on pouvait être une femme, mais aussi débile.
C'était le truc sur les femmes cures de combattants, c'était pathétique.
On retrouve Laure Adler à la commission scénaristique. On retrouve Pascal Blanchard en commission pour...
Histoire.
On a trouvé Pape Ndiaye à la commission diversité. Je veux dire, il y a un nombre de tocards qui sont uniquement là, parce que pour des raisons idéologiques et qui n'ont aucune légitimité, évidemment qu'on peut nettoyer. La question, c'est quels critères de légitimité on donne pour que ce soit ces personnes qui vont décider dans ces multiples commissions, et ensuite quels sont les critères pour aider un film, donc un jugement. Et on fait, alors, le nombre d'entrées, très bien, mais pas que. La nouvelle vague a fait une rupture, et la nouvelle vague, au-delà de... Voilà, a fait quelques entrées, mais pas que. Mais surtout, au-delà de sa pérennité, si on en parle aujourd'hui encore, c'est que le juge, le temps long est un bon juge, mais surtout, on a inspiré tout le monde. Vous regardez Melville, ouais, jusqu'au fin fond de la Chine, on s'inspirait de Melville. Aujourd'hui, oui, plus personne mais s'inspire des Français.
Il n'y a peut-être pas
donc
eu...
Donc c'est ces trois critères-là qui sont importants.
Il n'y a peut-être pas eu de plan commercial, justement, quand Truffaut et le premier Godard ont lancé des films. C'est-à-dire, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire d'un coup, sans forcément
ce qu'ils faisaient,
se concerter, voilà, sans y réfléchir. Alors, et il se trouve qu'il y avait une rencontre entre un projet, une œuvre et un film.
Et
un public, pardon.
Et un producteur.
Je voudrais pas... Mais Daniel Toscan, du Plantier, pendant longtemps, a dirigé une des officines françaises de promotion de la culture à l'étranger, qui était, je me souviens plus, Unifrance ou un truc dans ce goût-là, qui servait à promouvoir le cinéma français à l'étranger. Donc, en fait, on a eu une politique culturelle, on a eu aussi des gens... Louis de Funès n'a pas tourné que dans des chefs-d'œuvre, avec des scénaristes absolument admirables. Et effectivement, quand Louis de Funès revient pour La Grande Bouffe, il était totalement dévalué. Et donc là, le producteur a eu besoin de s'endetter dans des proportions. La Grande Bouffe, non, ce film, c'est sur l'industrie Tricatel. Là.
Ah oui, La Loue, la Cuisse.
Voilà.
Ouais. La Grande Bouffe, c'est l'autre.
On se retrouve avec là un acteur dévalué, une nouvelle génération de producteurs. Voilà. Il n'était présumé de plus être rentable. Il l'a été à nouveau. Et donc, on a eu à nouveau droit à des panouilles avec Louis de Funès. C'est une industrie. Il faut le juger évidemment sur la valeur financière. Il faut le juger sur la capacité du système à assurer la promotion. Les gens de la Nouvelle Droite ont quand même réussi à bâtir un écosystème où leurs films ne coûtaient pas cher.
Quel lapsus.
Leurs films ne coûtaient pas cher. Voilà. Mais en plus, ils avaient pu lancer parce que c'était capitalistiquement moins dangereux à l'époque et surtout moins cher. Ils ont pu lancer leur propre appareil critique et donc faire en sorte de créer d'un coup l'intégralité de ce qui permet à la fois de sortir le film et de le soutenir dans une presse qui était lue parce qu'il n'y avait pas encore cette concurrence médiatique. Là, aujourd'hui, il faut juger les films sur le nombre d'entrées, sur la qualité du scénario. Il faut virer en fait l'intégralité des clauses qui expliquent qu'on recevra de l'argent parce qu'il y a une clause de diversité. C'est ça. En fait, c'est même pas besoin d'inventer un nouveau système de jugement, d'un nouveau système esthétique. Il faut surtout enlever tout ce qui n'appartient pas en fait
entre une œuvre et un public.
Et après, il y a toute une refonte de la presse et des attachés de presse. Parce que pour avoir expérimenté le Bouzin, 70% des films n'étaient pas montrés. On me disait non, on ne peut pas vous montrer ce film.
Mais à vous, l'incorrect.
Ouais, en tant que critique de cinéma, de l'incorrect.
De l'incorrect.
Oui.
Mais c'est-à-dire que c'était vous
les attachés de presse.
Ah oui, mais ça, ils l'ont fait au Figaro aussi.
Vous interdisent l'entrée des projections presse avec des excuses. Alors, j'ai stocké toutes les réponses parce qu'ils sont formidables de création et d'inventivité. Pour 50% d'entre elles, ils ne vous répondent pas parce que c'est mieux de ne pas répondre. Et l'autre, ils vous trouvent des excuses et c'est merveilleux. Et il y en avait même une qui m'a expliqué « J'ai trop de respect pour ce film pour vous le montrer ». C'est quand même assez marrant. Donc le problème, c'est que vous avez aussi ça, c'est qu'on vous interdit de faire votre métier, on vous interdit d'assister à ça. Alors je vous raconte pas ensuite pour les entretiens ce que c'est. Donc il y a aussi le problème du milieu, c'est-à-dire ceux qui font la promotion du film, à savoir les attachés de presse. Le but étant de diffuser soit au public ciblé, soit au public le plus large. Ces connasses pensent encore que l'IB fait les entrées. Voilà, c'est ça la réalité.
Et c'est comme ça d'ailleurs avec les maisons d'édition.
POL avait expliqué, avait fait une liste de canards à qui il se revendiquait pour envoyer ses bouquins quand même. C'était assez amusant quoi.
Oui, ça effectivement, il faudrait que ça change un peu. Là, j'aimerais qu'on se penche aussi sur le cas de... Xavier voulait parler ?
Non, mais c'est... j'entends la description de ce système, parce que tout ça, c'est un système, je finis par comprendre, si vous voulez, la tentation qui peut être celle du Rassemblement National ou d'autres, simplement renverser la table, de faire table rase de tout ce
copain
de coquins, et ensuite de voir ce qui peut renaître de ses cendres et de ses ruines. C'est-à-dire que ça semble irréformable en réalité.
Alors ça, c'est le vrai danger, effectivement, parce que... l'assainissement va être très long quand même. Hein. Et ce qui est arrivé à l'incorrect, ça va très loin. Parce qu'encore une fois, moi je me souviens de polémiques qui avaient été déclenchées parce que des journalistes du Figaro, c'est quand même pas l'extrême droite. Quoi. Mais je me souviens très bien, c'était Éric Neuhoff qui était interdit de projection. parce qu'il dit, il critiquait des films.
Ah oui, mais c'est pas parce que c'est le Figaro, c'est parce qu'ils aimaient pas ses critiques.
C'est ça.
Ah oui, c'est pas pareil.
UEFA.
Non, mais non, c'est complètement débile, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'ils critiquaient ses critiques. Nous, c'est par rapport à la soi-disante ligne de notre canard. Mais avec Laurent Andrieux de Valeurs Actuelles, on s'appelait, on disait, bon, toi, t'as été censuré de combien de films aujourd'hui? Moi, 42, moi, 43, quoi. C'était vraiment ça. C'était même pas parce que, par rapport à nos critiques. S'ils voulaient pas nous montrer. C'est aberrant, quoi. C'est-à-dire, comme si nos lecteurs étaient. N'allait pas au cinéma, était complètement débile, il n'aurait pas compris la subtilité et l'audace créative du film.
Le fait de produire une œuvre n'était pas justement accessible à tout le monde.
Oui, oui, et puis je vois, dans les pages de Valeurs Actuelles, j'ai pu faire la critique bande dessinée positive de l'Odyssée d'Hakim, qui nous raconte comment un Syrien immigre clandestinement de la Syrie jusqu'en France pour s'y installer. Il n'y a pas un moment donné, et j'ai critiqué le premier volume, le deuxième volume et le troisième volume. Donc voilà, je fais confiance au rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles, dire si ça ne lui avait pas plu, je n'aurais pas pu passer le 2 et le 3. Pas du tout. Voilà, en fait, quand l'œuvre est bonne, on en dit du bien. C'est un truc de fou. Je veux dire,
Mais là, la nouveauté, vous voyez, c'est assez amusant parce qu'à Cannes, c'est sorti hier ça. À Cannes, vous avez eu trois films sur la Seconde Guerre mondiale, quoi, en France.
Ah oui, oui, oui.
C'est un thème important.
Oui, mais c'est bon, moi, j'aime bien Le Moulin, je l'attends avec impatience. Et puis, vous avez l'autre qui est sorti le lendemain avec Swan Arlo, dont je rappelle.
Qui est signataire.
Et signataire et comédien parce que sa mère est la plus grande directrice de casting de Paris et que son père est le plus grand chef de Paris. Mais Léa Seydoux est une bonne actrice, très grande actrice.
Oui, mais bon, quand même.
Swan Arlo, à part chouiner et être un sou de verre, j'ai toujours pas compris son intérêt. Mais passons, il fait un film sur la collaboration et là. Pour se venger de la non-réponse de Gilles Lelouch, ils ont encensé le film en disant « Regardez, ça, ce film est très important. » Et Libération, le lendemain, a listé les critiques négatives de ce film-là. En disant « Tel canard a dit que c'était pas bien, tel canard a dit que c'était pas bien, c'est bien la preuve qu'ils sont d'extrême droite. » C'est-à-dire, on en est aujourd'hui à des critiques qui jugent les critiques.
Ça va chercher
pour loin, des raisons idéologiques. Ça va très très loin, le truc.
Alors, parlons de ces fameux signataires, parce qu'il y a quand même... 2400 signataires, ça peut paraître beaucoup, même s'il y a 260 000 personnes, d'après la ministre, qui vivent de l'industrie du cinéma, ce qui, d'un seul coup, réduit un petit peu la gravité de la pétition. Mais parmi les pétitionnaires, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes intéressé aux noms qui s'y trouvent. Il y en a une, c'est la lettre A, qui s'appelle Romy Alizé, et qui s'affiche comme travailleuse du sexe, donc prostituée. Alors, prostituée, je ne critique pas,
jugement,
c'est un métier... C'est un métier, voilà. Mais je ne suis pas certain que ce soit un métier du cinéma. Enfin, sauf si on considère qu'effectivement, tous les pétitionnaires sont à peu près à faire les travailleurs pour se coucher, finalement. C'est vrai que la manière dont certains se couchent pourrait laisser penser que travailleuse du sexe est un métier du cinéma, mais a priori, non, en fait. Et...
Bah non, mais... Excusez-moi, c'est nerveux.
Ensuite, on en a qui travaillent dans la télévision. La télé, c'est quand même pas non plus le cinéma. Dans l'université. Alors, si l'université, c'était le cinéma, ça se saurait. Encore que. Dans des concerts, dans l'art contemporain, dans les spectacles pour enfants, au théâtre, au ministère de la Culture. Donc, à la limite, que ce soit des gens qui vont au cinéma, comme vous et moi, pourquoi pas. Mais ce ne sont pas des acteurs de l'industrie du cinéma.
Au ministère de la Culture, il y a des gens qui ont signé.
Oui.
C'est fou, ça.
Et
ça
en plus, oui, fou. Là, en matière de...
Ça, c'est quand même dingue. De
devoir de réserve, c'est chapeau. Ensuite, il y en a qu'on appelle donc, les fantômes. Ce sont ceux dont le nom n'est pas trouvable sur Internet. Alors, ça veut dire que là, ils sont peut-être acteurs chez eux. C'est-à-dire, moi, des fois, je fais des spectacles de marionnettes pour ma fille. Et est-ce que je suis un membre de la grande famille du cinéma? Peut-être.
Oui, vous êtes un troubadour.
Voilà.
Mais vous devriez signer. Essayez de signer, ça serait drôle.
Bah, tiens, c'est une bonne idée.
Voir s'ils acceptent déjà.
Ça serait rigolo.
Voir s'ils demandent en quelle qualité vous signez.
Oui.
Puis après, ça vous mettrait un bon bazar.
Quand même. Ma fille a l'habitude de signer les pétitions qu'elle n'aime pas avec des noms de tueurs en série, genre Patrick Holm, etc. Donc, et ça marche. Donc, je trouve ça plutôt. Je conseille.
Et ben voilà, chers auditeurs, écoutez Richard de Seize.
Si vous signez Klaus Barbie, ça peut être marrant.
Oui, surtout en ce moment.
Ah oui.
On a des journalistes des Inrock. Bon.
Oh.
Et puis on a, parmi les signataires, donc beaucoup qui, eux, n'ont plus du tout travaillé au cinéma depuis le Covid. Donc ça fait quelques années qu'ils sont sans emploi.
Qui sont résistants.
J'en suis.
Comme Anna Mouglalis,
par exemple. Peiné pour eux. Ben, je ne sais pas. Non, c'est
qui,
déjà...
je le rappelle, a réexisté grâce à Baron Noir payé par Canal+.
Ah bah tiens. Non, là, ce sont des anonymes, mais...
C'est une excellente série.
On peut se dire quand même que ce sont des gens, puisqu'ils n'ont plus bossé depuis le Covid, ça fait quand même un certain temps, qu'ils se disent, je vais signer ça, parce que ça va peut-être...
Me rouvrir des portes.
Ben oui, peut-être que l'idée, c'était de se dire, ça va me rouvrir des portes si je suis sur la pétition. Sauf que là, malheureusement, ça risque d'enfermer. Voilà, donc je sais pas ce que vous inspire la présence, notamment, de nos amis travailleurs du sexe et autres...
Il fallait faire le nombre, hein. Il fallait prouver que la réaction de Canal Plus suscitait un engouement chez les artistes.
Oui.
Le problème, c'est que l'engouement chez les artistes, il s'est limité à 5 noms, dont 3 gauchistes d'Hollywood. Quoi. Donc, bon, c'était un peu faible. Parce que moi, ça me fait marrer quand ils affichent « Regardez, il y a Xavier Bardem, Mark Ruffalo. Et d'accord, et il est où Spielberg? Il a signé ou pas ?»
Oui. Et Mel Gibson, il est où?
Je pense qu'il aurait signé une pétition, lui. Pas celle-là. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'il, regardez, c'est extraordinaire, il a signé. Oui. Ouais, et je vais vous faire la liste de ceux qui n'ont pas signé. C'est
en plus, comme il ne parle pas français, bon. Mais, par contre, tiens, après on va passer quand même à nos autres sujets, mais Arthur de Vatrigan, je vous lance une colle, hein, puisqu'on n'en avait pas parlé du tout, mais Trump avait chargé justement Mel Gibson, c'est ce que je
et
prononce
Stallone.
Son nom, et Sylvester Stallone, effectivement, de réformer Hollywood. Est-ce que, ça par hasard, marché. Vous avez une petite idée de ce qui s'est
fait Je crois qu'il ne s'est pas fait grand-chose si vous regardez les récompenses aux Oscars. Ils ont récompensé le film de Paul Thomas Anderson, qui est souvent un bon metteur en scène, mais là,
il s'est un peu gaufré,
une daube absolue, où on expliquait que finalement, on faisait l'apologie du terrorisme politique, en expliquant que l'extrême gauche d'avant est vachement plus sympa par rapport au woke d'aujourd'hui.
Voilà, oui,
mais ça restait quand même le terrorisme d'extrême gauche.
Mieux vaut poser des bombes que se teindre les cheveux en bleu. Quoi.
Voilà, les brigades rouges, c'est quand même mieux que les woke.
Oui.
Ouais, merci.
Oui, c'est exactement ça.
Bon, bah donc ça a foiré le truc.
Oui, oui. Et c'est triste ça, parce que pour le coup, Paul Thomas Anderson fait partie des cinéastes que je tiens pour les plus grands de notre époque.
Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bon film.
Oui, mais tant mieux, peut-être. Quand on n'en fait pas tous les ans, tout le temps, on a des chances de faire des.
Oui, mais comme il n'en faisait pas tous les ans non plus.
Oui. Alors, si on a fini sur le cinéma, on passe à autre chose. On va peut-être parler tout de suite de l'offensive contre nos médias. On pourra peut-être faire un petit retour d'ailleurs sur les bobards,
oui,
Jean-Yves.
Oui.
Donc.
On veut le palmarès.
Ah bah.
Oui. Ah oui.
Lundi 19 mai. Donc c'était il n'y a pas longtemps. La cagnotte lancée par F de Souche a été bloquée après seulement 3 heures de mise en ligne. Et sans raison, sans explication. Donc c'est vraiment arbitraire. Et.
C'était sur quel type de cagnotte?
Alors ça, j'avoue que j'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne le sais même pas. Ça doit être une plateforme de type Litchi ou un truc de ce genre. Mais en tout cas, ce qui est surtout grave, c'est que on ne le laisse pas bénéficier d'un système légal, accessible à tout le monde, et il y a un arbitraire qui lui tombe dessus, et on ne lui dit même pas pourquoi. C'est quand même extrêmement grave. Donc, F de Souche, bah, il est comme nous, hein, il ne vit pas des subventions du CNC, de l'État ou de la culture, donc il vit de la générosité de ses lecteurs, et mardi, c'est donc le compte Facebook de Radio Courtoisie qui, par votre serviteur, a reçu un message nous disant que nous étions mis en demeure pour non-conformité avec la charte déontologique de Meta, on met des grands mots, hein, la charte déontologique de Meta, et avec une incitation à se mettre en règle FISA avant suspension. Et jeudi, donc, c'est le compte Instagram du mensuel L'Incorrect qui a, là encore, été supprimé et sans explication. Donc, la parole est à Vatrigan. Qu'est-ce qui vous est arrivé et qu'est-ce que vous comptez faire, surtout?
En fait, on nous a indiqué que notre compte Instagram avait disparu. Donc on vérifie, en effet, il a disparu. On fait la procédure classique, on fait appel auprès de Meta, et au bout de 3 jours, ils nous répondent « Nous confirmons que vous n'êtes pas en accord avec nos règles, donc la suppression est définitive, point. » Et le seul moyen, et puis ils sont sympas, ils nous envoient un message supplémentaire en expliquant le seul autre recours qui vous reste, c'est devant les tribunaux. Donc, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour des raisons techniques? Est-ce que c'est pour des raisons? Est-ce qu'il y a eu une vidéo, un message qui ne correspondait pas à leurs règles ou qui n'était pas raccord avec leurs règles? Aucune idée. On ne sait absolument pas les raisons.
Sauf
donc
que
c'est compliqué de contester.
Pour ceux qui suivent le compte Instagram de L'Incorrect, ce ne sont pas, enfin, vous n'avez pas fait l'apologie de Bolloré.
Alors, ce sont essentiellement des vidéos critiques de films et de livres. Donc, bon, sauf si un auteur... Ah, peut-être Guillaume Meurice, si t'es pas content qu'on ait fait une analyse de son bouquin.
Oui, on a le droit.
Non, non, mais évidemment, non, non, mais je dis ça en plaisantant.
Ah oui, je ne sais jamais. Non, non, je n'ai rien de m'étonne, moi.
Je n'ai strictement aucune idée, sinon que le compte est supprimé définitivement. Bah, donc, on va faire le recours, avocat, tribunaux, ça va nous coûter encore un bras. Mais c'est ainsi, parce que avant de repartir... Un compte à faire monter, c'est compliqué. Bah, c'est très long, peu de temps. Oui. Là, il était en pleine croissance, donc il faut repartir à zéro. Je préfère encore récupérer l'ancien compte, donc on va se donner quelques jours pour voir une semaine ou deux maximum pour essayer de voir quel recours peut nous donner l'espoir de récupérer ce compte-là. Étant donné que de toute façon, Meta, quand vous leur demandez quelque chose, sont des robots qui répondent. Robots, alors ouais. Les robots.
Et des robots un peu bêtes, hein, avec franchement, eux, c'est pas de l'intelligence artificielle.
Mais des robots quand même très politiques, parce que je pense que l'explication derrière ça, c'est des gens comme Musk et Durov qui l'ont donné, en expliquant qu'on leur avait proposé, pour éviter les poursuites judiciaires ou les difficultés qu'on leur oppose, de céder un petit peu aux demandes de censure du pouvoir, aux demandes de censure illégales du pouvoir. Et donc, il doit y avoir des échanges entre les gens du pouvoir et ces plateformes. Et les plateformes, pour avoir la paix, satisfont les demandes arbitraires du pouvoir, ce que ne fait pas Musk avec X ou ce que ne fait pas Pavel Durov avec Telegram. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un compromis politico-idéologique entre certaines plateformes et le politiquement correct français et européen. Et d'ailleurs, ceux qui ne font pas ce compromis se retrouvent devant les tribunaux.
Alors, j'avoue que je me demande quand même s'il y a beaucoup de comptes d'extrême gauche ou islamistes ou faisant la promotion de choses illicites qui sont aussi sanctionnés que dans notre milieu. J'avoue que je pose sincèrement la question parce que je n'ai pas de vraie réponse.
Bah, mais disons que le
compte ordurier d'extrême centre ou de. Appelant la violence contre sa propre population, etc., etc. Il faut pas rester dans cette équivalence entre ah oui, mais est-ce qu'il y a aussi des comptes d'extrême gauche qui sautent et aussi des comptes d'extrême centre. Pendant des tas de périodes politiques récentes, ils appelaient la violence contre leur propre population, à emmerder leur population. Ils sont eux-mêmes d'une extrême violence. D'ailleurs, ce n'est pas le centre, c'est l'extrême centre. Et donc, ils mériteraient eux aussi.
Sont les centristes radicalisés.
Fût-ce par la violence de leur mode d'expression, de nombreuses fois, on pourrait penser qu'ils enfreignent telle ou telle charte de bonne conduite, de courtoisie sur tel et tel réseau. Bon, en fait, en réalité, il n'y a que les comptes de droite nationale qui sautent systématiquement.
On avait eu le rapport à l'oncle avait montré qu'il y avait les comptes de la personne en charge de France TV Slash qui faisait la promotion des champignons hallucinogènes et du cannabis. Son compte, je crois, n'a jamais été censuré. Ni celui de France TV Slash, ni de celle qui diffusait ces contenus-là.
Bon. Ah, alors que là, c'est clairement
illégal. Que c'est illégal encore.
Oui, oui. Ouais,
voilà.
Bon, ben
écoutez. La GPA ou.
Oui, enfin, ça, malheureusement, c'est soutenu par le système. Donc, ça ne sera pas jugé illicite. Et ça fait partie des chartes, des valeurs de Meta, ça, la Mais GPA.
Si vous regardez, c'est quand même.
La transsexualité, etc. Tout ça. L'inconvénient, en fait, c'est, j'en discutais avec Maître Triomphe, il y a d'ailleurs, qui est l'avocat de Radio Courtoisie, et on discutait de manière de se défendre, et notamment où il m'expliquait qu'en fait, sur le pénal, aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances que face aux chartes de réseaux sociaux. Parce que ces gens, il me l'a appris, j'ignorais, pratiquent ce qu'on appelle, et pas pour rire, le droit souple. Le droit souple, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est complètement... C'est le droit de l'arbitraire. C'est ta tête ne me revient pas, je te sanctionne. Et en fait, c'est sur cette base fameuse là, de la charte des valeurs, c'est-à-dire que ce sont des sphères d'un certain point de vue privé, c'est-à-dire qu'on accède à une plateforme et on doit signer une charte des valeurs. Et ensuite, ils exercent un droit, le droit souple, qui n'est pas celui de tous les habitants du pays, mais qui est le droit extraterritorial, si on peut dire, de la plateforme. Et donc, elle se permet des choses d'un arbitraire total, sans la moindre justification, sans le moindre recours, parce qu'encore une fois, au pénal, on a quand même l'appel, la cassation, la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on a ses yeux pour pleurer, quoi.
Et le contradictoire.
Oui.
Au pénal, on a le contradictoire. Là, on n'a pas le contradictoire, puisque.
Ah non, là, on a sa gueule à fermer.
Ça saute, on ne sait pas pourquoi.
Mais si vous regardez les différentes étapes, c'était. Avant, c'était l'exclusion sociale. Vous traitez l'extrême gauche, l'extrême droite, pardon. Et voilà, vous, exclusion sociale, vous perdiez vos amis, votre boulot et tout. Comme ça ne marche plus, ils passent aux finances. Parce que le principe des réseaux sociaux pour des structures de médias ou d'associations, c'est aussi pour vendre du contenu ou pour faire des appels aux dons.
Bien sûr.
Et donc, ça, on censure la promotion ou carrément le contenu, et ensuite on censure, et les banques censurent, et les plateformes de financement censurent, et les cagnottes censurent. Donc là, ils en sont à la stratégie d'assèchement financier. Et moi, j'attends l'étape d'après.
Ah bah, c'est exactement ce qu'a fait.
Ça, l'étape d'après, c'est quoi ?
C'est exactement ce qu'a fait Libé en attaquant des associations comme Némésis et Radio Courtoisie, en disant ces gens-là ont le droit de défiscaliser, c'est pas normal parce que c'est des méchants. Et Éric Coquerel les reprend au vol et il porte le sujet non plus dans la presse, mais à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, et il explique qu'ils vont revoir les procédures pour nous empêcher de délivrer des reçus fiscaux, donc d'exister, parce que c'est sûr et certain qu'on ne va pas pouvoir compter sur les subventions du ministère de la Culture ou de l'Information.
Mais il faut toujours qu'on contourne et à chaque fois, eux, ils ajustent.
Oui.
Donc là, je n'ai pas de... Dans les prochaines années, ou même à un temps très court, on contournera, on aura nos plateformes de financement propres, pourquoi pas des banques, voilà. Mais ils passeront à l'étape d'après, c'est toujours la même chose. Ils usent de leur stratégie, elle ne marche plus, on passe à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Donc moi, j'essaye déjà d'anticiper celle d'après.
L'avantage, quand même, c'est que l'épée a toujours un coup d'avance sur le bouclier. Donc, on a des chances d'avoir toujours un coup d'avance.
Toujours un petit coup d'avance, voilà. Oui.
Bah, pour l'instant, ça sèche, quand même.
Bon, sur ces paroles d'espoir, on parle un peu d'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'était le sujet. On l'avait évoqué il y a quelques semaines déjà. Et puis, on a voulu y revenir parce que c'est quand même extrêmement important. Donc, on voit qu'en Chine et aux États-Unis, l'intelligence artificielle avance à pas de géant. C'est-à-dire, je parlais récemment avec quelqu'un qui va souvent en Chine et il me disait que, par exemple, la profession de serveur dans les restaurants est en voie d'extinction parce que ce sont des robots qui font le service. Donc, ce sont des robots humanoïdes ou bien pas humanoïdes, mais donc des espèces de caisses, quoi. Mais c'est déjà en route, c'est déjà fait. Et il y a des vrais petits humanoïdes avec des voix d'intelligence artificielle, masculine ou féminine, qui vous font un service. Et aux États-Unis, là, on a vu que Elon Musk estimait que l'intelligence artificielle allait nous faire entrer, dit-il, dans une ère d'abondance extrême et rompre le lien entre le travail et la création de richesses, ce qui est quand même une révolution, encore une fois, une révolution anthropologique majeure. Et lui explique qu'en gros, nous sommes voués à devenir des jouisseurs, et son concurrent ou adversaire, Sam Altman, donc lui, ne remet pas en question le diagnostic, et il ne remet même pas en question le concept de revenu universel proposé par Elon Musk, en disant, bah, de toute façon, l'argent va couler à flot, mais on n'aura plus besoin des humains pour créer de la richesse. Lui, il dit simplement que ce revenu universel doit être accompagné de crédits de formation, pour entretenir les capacités cognitives des humains et éventuellement pour créer des nouveaux métiers liés au développement de l'intelligence artificielle. Donc il ne s'agit plus de se dire maintenant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Il s'agit de se dire c'est ainsi et qu'est-ce que l'on fait pour se confronter à cette évolution qui avance en plus. C'est vraiment, c'est même pas d'année en année. C'est de mois en mois.
Jour en jour.
De jour en jour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le mécanisme du revenu universel ?
Eh bien,
j'ai pas tout compris, moi.
Musk, en fait, dit que l'intelligence artificielle n'a plus. Enfin, fait en sorte que les entreprises n'ont plus du tout besoin d'humains, pratiquement à aucun niveau, et que cela va générer encore plus de richesses qu'avant. Alors là, j'avoue que le phénomène de création des richesses, c'est lui qui l'a en tête, mais qu'en fait, le travail n'est plus du tout corrélé. Que la richesse n'est plus du tout corrélée au travail.
C'est-à-dire qu'on va avoir besoin en fait, de consommateurs.
C'est
donc,
ça.
Donc comme les gens ne travaillent plus parce que ce sont les machines ou les intelligences artificielles qui vont créer quelque chose,
oui.
Ils ont besoin de gens pour acheter.
Pour consommer.
Mais oui. Comme ils n'auront plus de travail, on leur donne de l'argent
pour
acheter.
C'est ça le principe. Okay. Ça entretient
le modèle économique français.
Les 200 000 personnes du cinéma vont être remplacées par des
machines. Robots, oui. Et qui vont créer des scénarios,
un revenu
qui vont
universel
pour signer des pétitions,
qui leur permettra d'aller au cinéma.
Par parenthèse, ça pourrait être intéressant d'ailleurs parce que ça permettrait de faire à moindre coût des films. Sans passer par les contraintes des subventions et du politiquement correct. Il y a peut-être des pistes intéressantes.
Ça va même bien au-delà, parce que des films créés par intelligence artificielle, en réalité, mettront le réalisateur de cinéma dans la position qui est aujourd'hui celle de l'écrivain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire un film, c'est réellement une industrie, il y a une équipe, il faut un monteur, un cadreur, des acteurs, un régisseur, et donc ça devient par nécessité une œuvre collective contrainte par un univers matériel. À partir du moment où on pourra faire des films uniquement en écrivant des prompts, eh bien, le processus de création d'un film par un réalisateur, qui se contentera donc de donner des ordres à une machine, eh bien, se rapprochera énormément du travail qui est aujourd'hui celui d'un écrivain. C'est-à-dire que ça pourrait être une création individuelle, beaucoup plus personnelle et solitaire, en réalité. Est-ce que ce sera mieux? Je n'en sais rien. Mais c'est vraiment une rupture. C'est-à-dire que le film va devenir une sorte de livre en images.
Oui, mais alors, au-delà du film, la question de la rupture entre le fait... Parce qu'en réalité, il y a aussi la question de la dignité humaine. Enfin, c'est quand même important. L'idée que, depuis la nuit des temps, depuis Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, on gagne sa position sociale au sein de la société et on gagne sa dignité à ses propres yeux, aux yeux de sa famille, à mesure que l'on est capable d'en assurer la sécurité, voire la prospérité. Et là, c'est fini. Enfin, je ne sais pas, ou alors je suis le seul à penser ça, mais ça me semble extrêmement grave, non ? Richard de Sèze.
C'est assez vertigineux. Je ne suis pas certain que la dignité était absolument liée à l'action individuelle. Il y a un moment donné où on admet qu'une partie de la population soit improductive, on admet qu'une partie de la population ne soit pas capable. Mais la civilisation, c'est aussi le fait d'admettre en son sein justement des personnes qui n'ont pas le plus gros gourdin, ni le plus gros biceps, ni la charrue la mieux forgée et la plus aiguisée. Donc, peu à peu, on bâtit une société de réciprocité de service où tout le monde n'est pas censé être au taquet de la performance. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est fondamentalement différent et qui d'ailleurs paraît un peu utopique. On a besoin de faire marcher une économie sans que plus personne ne soit en mesure de proposer un travail intéressant pour les 99% de la population. Et donc, il y aura 1% d'ingénieurs informatiques et d'artistes qui produiront, et d'artisans qui produiront des biens destinés pour la majeure partie et la plus grande masse, donc qui se satisfera de production culturelle médiocre et d'une nourriture infecte. Et en revanche, il y aura toujours 10 artisans Chanel qui produiront 14 sacs pour les vendre au nabab. Là, pour le coup, c'est surtout stupéfiant, avec surtout cette idée que la richesse produira son propre marché, ce qui paraît en fait ne pas être viable. Des États, en fait, au service des grandes corporations internationales, taxeront les populations indigènes pour qu'elles puissent acheter sur le marché indigène des productions qui leur sont destinées. Enfin, à quel moment a-t-on vraiment l'impression que c'est viable, en fait?
Je ne sais pas. Vous n'y croyez pas?
Non.
Alors, vous voyez ça comment?
Je vois plutôt...
Parce que quand vous n'aurez plus de boulot demain, comment vous allez faire?
Voilà. Richard, on sait tous que vous n'êtes déjà qu'une machine artificielle et une intelligence à peine humaine.
Mais attendez, vous savez que moi j'ai été sidéré un jour ce qu'on a fait avec une journaliste d'ailleurs de Radio Courtoisie, où on voulait faire une traduction de sa voix en anglais grâce à une IA, et la voix, sans même qu'on le sache, a copié avec une exactitude mirobolante la voix réelle de la personne. C'était incroyable. C'est-à-dire, oui, on peut prendre votre voix, Richard de Sèze. Il paraît que le simple fait de dire bonjour ou allô est suffisant pour des logiciels avec cette intelligence artificielle pour décalquer totalement votre vraie voix.
Alors, avec en plus les milliers de mots que j'ai prononcés à cette antenne.
Alors, vous êtes foutu.
Mais, monsieur le Président, en fait, ce que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à copier, c'est l'intelligence de vos analyses.
Ah, ça, c'est vrai. Moi, je sauve ma place.
Voilà. Et donc, c'est la même chose pour nous tous autour de la table. Non, je ne crois pas à un monde où il y aurait 99% d'une masse servile qui n'accepterait que d'honnêtes consommateurs. Je crois beaucoup plus au fait qu'il va y avoir...
Qu'il faut créer des nouveaux métiers, alors.
Ben, oui, et puis surtout, je crois surtout qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont finir par passer sous les radars, en fait. Ouais. Comme dans les années 70, voilà, des gens qui vont recréer une contre-société et qui, d'ailleurs, vivra en parallèle. Il y aura les subventionnés universels qui iront assister au film produit par un CNC macroniste avec des intelligences artificielles où on aura dupliqué Emmanuel Macron et Richard Ferrand comme étant les membres du Conseil constitutionnel permanent de la planète. Et à côté, il y aura les gens normaux qui mangeront les poireaux cultivés dans leur jardin et qui retailleront des bouts de bois pour en faire des statues.
Alors, avant de céder la parole à Xavier Van Leer, je voulais dire que moi j'ai réfléchi un tout petit peu quand même, parce que, oui, j'ai peur moi. Non mais je me disais, ça rejoint un peu ce que vous dites Richard de Sesse, que en fait la seule façon de s'en sortir sera précisément d'être un producteur de choses rares, et donc là pareil, l'ami qui était en Chine m'expliquait que l'industrie alimentaire est déjà en train de monopoliser la production de l'alimentation. Via des techniques d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est hallucinant. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de gens. Et je me disais, en fait, l'avantage là-dedans, c'est que ça sera une production extrêmement standardisée, sauf si on arrive à faire vraiment des choses d'exception. Mais, à la limite, si on est un petit producteur dans son petit village, on peut s'en sortir bien en créant une espèce de production artisanale de luxe, et qui fait qu'on sera le seul dans son petit secteur, donc non pas en France, mais dans son petit village, à produire les bons légumes, la bonne viande, et d'un seul coup, le fait d'avoir un produit atypique garantit une certaine prospérité.
Il n'y a pas de limite dans l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune limite et on ne peut pas imaginer une limite. Donc, même ce produit de luxe, on peut très bien penser que l'IA le fera. En revanche, moi j'imagine plus, et là on va faire l'éloge de la médiocrité va redevenir sympathique. Si on prend par exemple l'exemple des livres ou des essais ou de la littérature, bah, je vous promets qu'une IA va pondre de manière bien plus intelligente que des essais de la Guénerie ou que des bouquins de chez Grasset. Mais c'est une IA. Et donc, je pense que le luxe va pas être dans la création du produit, mais dans le consommateur. Et que si vous créez une AOP, comme on avait créé des AOP pour la bouffe, 100% d'origine humaine, même si c'est moins bien, le principe que ça soit 100% d'origine humaine, les gens sont prêts à payer plus cher. Même si c'est moins bien. Et regardez sur la bouffe, vous avez des AOP qui sont moins bonnes que d'autres en fromage ou en charcuterie qui ne sont pas AOP.
Et je parle pas des
mais vous lâchez parce que c'est AOP. Et ça va être la même chose. Moi, je vais lancer le premier magazine 100% d'origine humaine. Pas une seule IA dedans. Je vais déposer le brevet, il y aura l'incorrect 100% d'origine humaine. Frontière sera dans la merde, je vous le dis.
Ah, quel
taquin.
Xavier Van Leer, est-ce que l'hypothèse d'Arthur de Vatrigan vous convainc ou vous séduit?
Totalement. Et celle de Richard aussi. Je suis persuadé que face à ce rouleau compresseur, il va y avoir des poches, je ne sais pas comment les appeler, de résistance, d'authenticité, toute une contre-société qui ne pourra se mettre en place pour en fait tout simplement pour ne pas devenir fou. C'est-à-dire que l'effet quand même principal de l'intelligence artificielle, c'est d'être confronté à ce que l'écrivain allemand Günther Anders avait pressenti dès les années 60, c'est-à-dire c'est un effet quand même d'humiliation. C'est-à-dire nous avons créé quelque chose qui est quand même presque systématiquement meilleur que nous. Il y a encore 6 mois, on pouvait rigoler ou être dans la rivalité. Aujourd'hui, objectivement, dans de nombreux domaines, ce n'est déjà plus possible. Je ne crois pas du tout à cette idée de... Oui, mais je ne crois pas qu'on soit dans un processus à la Schumpeter de destruction créatrice, interne en tout cas au monde marchand et de la production, parce que ces nouveaux métiers, eh bien, l'intelligence artificielle sera meilleure aussi sur les nouveaux métiers. C'est-à-dire que c'est pas l'IA s'empare de quelques domaines. Ce bidule est un changement de paradigme complet. Ce n'est pas un prolongement de notre main, ni même de notre cerveau. Il le remplace. Ce n'est pas du tout la même chose. Cela dit, pour l'instant, on est plutôt dans la sidération. On est plutôt dans la sidération parce que cette chose se développe plus vite qu'on arrive à la penser. C'est ça qui est sidérant. Il y a un exemple célèbre. La Commission européenne, je crois, a voulu pondre un règlement pour réguler l'intelligence artificielle. Sauf que il lui faut plusieurs mois pour accoucher de ce règlement, et au moment où il est prêt, il est complètement dépassé, parce qu'entre-temps, l'intelligence artificielle a changé de nature, non pas de vitesse ou quoi que ce soit, c'est déjà devenu autre chose. Donc c'est illusoire, on court derrière un bidule qui va déjà plus vite que nous. Cela dit, et j'en terminerai par là, il y a quand même au fond de nous tous le sentiment qu'il va falloir reprendre le contrôle. Et donc je voudrais, non pas saluer, mais signaler la création aux États-Unis, où l'intelligence artificielle irrigue bien davantage la société qu'en France ou en Europe, la création de l'association qui s'appelle Human First, donc les humains d'abord. Ce n'est pas une association de ludistes qui voudrait supprimer l'intelligence artificielle, mais ils attirent l'attention sur le fait que, après tout, un outil tel que celui-là mériterait probablement d'être surveillé, régulé, qu'on se pose la question de l'opportunité de le déployer dans tel ou tel secteur de la société. Ils prennent comme exemple, il est assez bon à mon avis, celui de l'industrie nucléaire, bon, qui révolutionnait le domaine de l'énergie, qui comportait aussi un certain nombre de risques. L'intelligence artificielle a d'immenses avantages, elle a probablement aussi des risques. Alors, je ne sais pas la forme que ça va prendre, mais ce que ça révèle, c'est quand même le sentiment que l'humain devrait contrôler cette sorte de golem ou de Frankenstein qu'il a créé, avec certainement la révélation qu'aux États-Unis, comme ils ont les infrastructures qui sont celles de l'intelligence artificielle, ils en voient davantage que nous les coûts. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, comme on n'a pas ces infrastructures, on est complètement largués, et c'est bien triste, et je le regrette. L'intelligence artificielle en Europe, pour la plupart des gens, ça se résume à: c'est génial, je pose une question à ChatGPT ou à Claude AI et j'ai une réponse. Ou à Mistral, pour parler quand même des quelques IA françaises, et j'ai une réponse et ça me facilite mon travail. Et comme j'ai toujours mon travail, c'est super, parce que soit je peux me la couler douce ou en faire plus si je suis un peu stakhanoviste. Aux États-Unis, on en vient maintenant à l'heure des arbitrages. Donc, par exemple, il y a les premiers conflits liés au fait qu'il y a une hausse des tarifs de l'énergie qui sont dus au fait que c'est extrêmement gourmand en énergie. C'est aussi gourmand en consommation d'eau. Donc, à proximité des lieux où on implante des data centers nécessaires pour faire tourner cette intelligence artificielle, eh bien, il y a premier conflit avec des syndicats d'agriculteurs qui disent « Non, non, cette ressource-là, elle est pour moi. Nous, on a des champs ici depuis la nuit des temps. Nous contribuons à nourrir l'Amérique. Il n'y a pas de raison qu'on donne la priorité aux data centers plutôt qu'à l'industrie agroalimentaire. » Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on en a, je pense, une vision un peu irénique en Europe, parce qu'elle est un peu magique. Elle nous tombe dessus avec des prix qui sont en plein dumping par ailleurs, et j'en terminerai par là, parce que tout ça a un coût qui est pour l'instant caché. Il est caché parce que c'est une industrie qui est largement subventionnée et qui bénéficie d'investissements de la part d'investisseurs qui ne ramassent pas encore leur mise. Mais ce moment va venir. Donc pour l'instant, c'est génial, l'intelligence artificielle. Pour un abonnement à 10 euros, on a tout.
Sur ce, je vous coupe, Xavier. Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi, je voulais dire qu'à partir du moment où elle existe, on doit aussi l'utiliser dans nos différents combats, dans nos différentes manières de mettre en avant nos idées. Je voudrais signaler, c'est tout à fait artisanal, à Polymia, on a mis en place une petite IA qui brasse 40 000 textes qu'on a sélectionnés et qui apporte des réponses orientées, c'est délibérément voulu, en fonction des textes qui sont interrogés. C'est aussi une manière de livrer le combat des idées. Et je pense, pour reprendre un peu le débat précédent, que ou ce qui a été dit par Arthur de Vatrigan, que c'est aussi quelque chose qu'on devra utiliser pour faire des fictions. Aujourd'hui, on a pu faire de l'information, on peut faire de la réinformation. On ne peut pas faire, de notre point de vue, des fictions, parce que les besoins financiers sont trop élevés, avec les systèmes d'intelligence artificielle, on pourra peut-être aussi faire nos propres fictions. Il va y avoir un film Odyssée qui va avoir tous les canons du politiquement correct, qui sera peut-être bon par ailleurs. Eh bien, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait en faire un beaucoup plus fidèle, finalement, au texte lui-même. Ouais. Voilà.
Arthur de Vatrigan.
Quand je disais tout à l'heure que l'IA n'avait pas de limite, c'est une limite dans la créativité et le développement. Mais Xavier a raison de le rappeler. Il y a une limite, évidemment, c'est qu'elle est vorace en énergie et que les ressources sont rares par définition. Donc, bah voilà. Et il n'est pas illimité. Donc, de toute façon, la limite sera là. Ensuite, il y a quand même aussi, au-delà d'être la partie technique...
Donc, il y a une limite matérielle.
Bah, il y a une limite matérielle. Et si je pense que les Américains regardent les étoiles et rêvent de repartir là-bas, c'est peut-être aussi pour ça. Des énergies à trouver. Des ressources à trouver. Mais il y a aussi, au-delà de la partie technique, créatif, progrès, dans tout le sens qu'on souhaite, bon comme mauvais, il y a quand même aussi un fondement philosophique dessus, qu'on voit. C'est éliminer l'homme de l'équation, non pas le tuer, mais éliminer la décision humaine. Et ça, c'est quand même le grand rêve, pour remonter au 19, mais même de tous les technos, c'est que l'homme ne décide plus. Regardez ce qui s'est passé à Gaza, lors des bombardements. C'est une IA qui a fait le scénario. Alors l'homme a encore décidé, mais c'est l'IA qui a dit, voilà, si on vise, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on choisit. Ça, c'est une réalité. Donc, dans les guerres, le principe, là où on est l'homme est le plus responsable, c'est quand il décide en disant, bah, si on attaque là, les conséquences sont ça, on assume ou on n'assume pas. C'est le scénario le plus extrême, mais le principe étant que si c'est une IA qui le fait, il n'y a plus de responsabilité humaine. Dans la justice, ça sera pareil. La justice qui va... Aujourd'hui, si vous faites un sondage
c'est,
auprès des...
Pardonnez-moi, c'est même l'inverse, en fait. Les conséquentialistes nous expliquent si c'est l'IA qui décide, en fait, la responsabilité de l'homme, si c'est l'IA qui décide des bombardements, la responsabilité de l'homme, elle est dans les vies humaines de ceux qui bombardent, qui seront épargnés. C'est-à-dire, en fait, je délègue à l'intelligence artificielle le soin de la guerre parce que, du coup, ça économise les soldats de mon propre pays. Et c'est exactement les théories.
Évidemment, il y a ça aussi.
Donc, c'est absolument fascinant comme renversement. Alors qu'évidemment, les militaires en premier, d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, ce sont les militaires qui sont les plus opposés à l'usage de l'IA. Les militaires en premier disent, ben non, en fait, quand il s'agit de tuer quelqu'un,
Maintenant, c'est des guerres de drones.
Pardon ?
Mais non, ça va jouer en drone.
Je parle de la manière dont les militaires américains ont été interrogés sur ce qu'ils pensent de l'IA et non pas de la manière dont la guerre est pratiquée en ce moment par les États-Unis ou Israël, où effectivement les intelligences artificielles décident en laissant d'ailleurs un temps de validation humain de 10 à 15 secondes par frappe proposée. Donc autrement dit, le gars est un tampon humain, comme le dit un très bon article publié dans la revue
Étude. Mais l'homme est encore responsable.
Il est prétendument responsable. Quand on laisse à quelqu'un 10 à 15 secondes pour décider de la pertinence
d'une
frappe...
C'est quand même lui qui dit oui ou non.
Oui, oui. En automatique.
Le pire, c'est que bientôt, et le rêve, c'est que l'homme ne décide plus. C'est qu'il n'y ait même plus de président ou de roi. C'est qu'en fait, l'homme soit enlevé de toute décision. Et si vous prenez la justice, par exemple, alors on l'a vu dans le médical, ça existe déjà. Dans la justice, faites un sondage aujourd'hui. Vous préférez être jugé par une IA ou par un humain? Mais ma main a coupé que la majorité des Français répondent par une IA. C'est ça, la conséquence concrète, ça va être qu'on enlève la responsabilité de l'homme parce que l'homme fait des erreurs. Je veux dire que je suis obsédé par la babale, mais le foot. L'arbitre était l'homme le plus détesté. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une vidéo d'arbitrage assisté en disant non, c'est plus l'homme. Alors, l'arbitre décide toujours, mais c'est l'IA, quoi pas l'IA, le robot ou la vidéo assistée qui lui dit il y a faute, il y a hors-jeu, il y a main ou il n'y a pas main. Voilà. Ça enlève pas le problème, tout le monde se met sur la gueule, parce qu'il y a toujours une décision humaine. Mais le principe, c'est ça. On va vers ça. Comme on considère que l'homme est imparfait, on résout le problème en enlevant toute décision de l'homme dans les processus. Et on veut faire confiance à l'IA. Donc il y a une vraie philosophie derrière, qui m'effraie beaucoup plus que la création de robots tondeuses, bûcheronnes, ou d'amantes, ou de partenaires sexuels, comme vous voulez. Quoi. On est à un niveau... très effrayant, et c'est vraiment pensé.
Donc c'est la déresponsabilisation. Xavier ?
Oui, c'est au-delà de la déresponsabilisation, c'est un changement de paradigme sur la façon dont on... les outils qui permettent de faire tenir les sociétés ensemble, de faire vivre les gens ensemble, de créer de la sociabilité, auparavant, enfin d'organiser la société. Auparavant, on avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de la règle culturelle, des mœurs, de la courtoisie, des valeurs partagées, autant de choses qui étaient polies par le temps et qu'on peut résumer par le terme de tradition et de mœurs partagées. On risque tout à fait de rentrer avec l'intelligence artificielle dans un autre mode d'organisation qui supprime la notion de mœurs partagées par quelque chose qui est de l'ordre de la norme et qu'on a déjà quand même beaucoup vu.
C'est la gouvernance en fait, hein. C'est-à-dire c'est finalement le rêve du G20 ou du FMI, c'est-à-dire c'est une forme de gouvernance mondiale où la décision humaine, effectivement, la subjectivité n'intervient plus.
Exactement. Oui, exactement.
Et serait remplacée par une soi-disant objectivité qui, en fait, ne sera jamais réellement objective.
Exactement. Si on veut voir ce que ça donne, il suffit de se pencher sur la mutation de l'entreprise où, par exemple, les affinités ont été supprimées, les libres affinités, la libre association, par exemple, le choix de recruter un tel ou un tel, a été supprimé et bridé au nom de critères prétendument plus rationnel, ouais. À coup de chartes, de normes de plus en plus tatillonnes et soi-disant neutres, efficaces, rationnelles. Et à partir du moment où la façon de raisonner d'une intelligence artificielle est celle-là, parce qu'elle a la capacité, on peut changer d'échelle et imaginer des systèmes de même ordre à l'échelle de la société, parce que sa puissance de calcul et de sa capacité à pondre des règles, mais aussi à les faire respecter, devient possible, ce qui n'était pas le cas auparavant à l'échelle d'une communauté politique et historique.
Alors, il nous reste quelques minutes. Il y a quand même une question qui me semble essentielle, et qui sera peut-être essentielle aussi pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont peut-être envie d'avoir des approches plus concrètes, mais c'est l'avenir des plus jeunes et donc des enfants, des petits-enfants. Sincèrement, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, quelle formation voyez-vous pour eux afin qu'ils survivent dans ce monde en mutation ? Non, c'est une vraie question.
Bon, on ne sait pas. Non, on ne peut pas savoir.
Père indigne.
Mais non, mais vous parlez de formation, c'est-à-dire de cursus classique.
C'est pas père indigne, c'est qu'en fait, on est incapable de dire à un gamin et dans 5 ans, il va se passer ça.
C'est pas possible. Même dans 3 ans, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, et c'est là où l'avenir est assez obscur pour les générations qui arrivent, c'est, je repars de l'idée de cette création que Jean-Yves disait, on va pouvoir créer. Oui, mais si vous regardez, là, c'est intéressant, dans les livres auto-édités, comme avec l'IA, ça pullule, les auto-édités, ceux qui gèrent les auto-éditions ont limité à 3 le nombre d'auto-éditions par personne par jour. Parce que ça pullule. Et ce qui va se passer, c'est pas qu'en fait on va remplacer la création, c'est qu'on va aller vers une création individuelle. C'est-à-dire que là, les gens utilisent l'IA pour se faire mousser en disant j'ai écrit un livre, mais dans quelques mois, allez, disons quelques années si on est positif, les gens écriront plus pour qu'ils soient lus, ils écriront pour qu'eux lisent ce qu'ils veulent lire. De la même manière qu'ils créeront des films qu'ils ont envie de regarder, ce qui fait, ou des musiques également, ce qui fait qu'il y aura plus de commun. Il n'y aura plus de salles, il n'y aura plus de trucs partagés. Vous n'aurez plus un imaginaire collectif. Chacun va produire sa propre, avec la curiosité qui est la sienne, c'est-à-dire à l'état nul, étant donné que depuis que la télé existe, c'est nul, depuis que les plateformes existent, c'est encore plus nul, avec une curiosité encore moindre. Mais les gens vont juste créer leurs besoins chez eux.
En silo.
Et donc la conséquence, pour le coup, des prochaines générations... C'est que moi, c'est l'effondrement du commun et de l'imaginaire collectif.
De l'imaginaire. Alors, c'est intéressant parce que je discutais récemment, je déjeunais même avec un ami qui travaille, qui investit dans les nouvelles technologies, et j'étais comme un lapin fou, et donc je lui demandais qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, qui est ma vraie question. Et il me dit, en fait, en l'état actuel des choses, il faut continuer à leur donner une formation classique, donc pas du tout de spécialité dans les nouvelles technologies, mais une formation généraliste classique où on attise, prenez des notes Richard de Sèze, bravo, où on attise leur curiosité. Et genre, c'est votre réponse à Arthur de Vatrigan qui me fait penser à la curiosité, effectivement, maintenir en éveil la curiosité, l'imagination qui leur permettra de surnager dans ce monde qu'en fait, objectivement, leurs parents et leurs grands-parents ne sont plus en mesure de prévoir parce que on n'est plus comme autant. De Colbert, enfin Colbert c'est un mauvais exemple parce qu'il avait prévu la marine en bois, il s'est retrouvé avec la marine en fer, mais c'est Vous savez, Colbert plantait des forêts, voilà. Mais et malheureusement, ces dernières forêts n'ont pas servi puisqu'on était passé au moteur à charbon. Mais voilà, bah, nous en sommes un peu là. Donc voilà, Xavier, vous voulez...
Oui, oui, moi je pense que pour les enfants, il faut le revenir à quelque chose qu'on appelait être un honnête homme. Et dans honnête homme, il y a homme. Et donc il faut qu'ils cultivent leurs différences, leur nature humaine, parce que la valeur ajoutée sera ce qui n'est pas de l'ordre de l'artificiel. Donc devenir des honnêtes hommes et aussi cultiver l'autonomie. C'est-à-dire que ce qui est terrible.
Regarder un film tout seul, écrire un livre tout seul.
Non, mais. Sa souveraineté individuelle et sa capacité à réfléchir et à agir par soi-même. L'ensemble de ces instruments sont absolument mirifiques, mais ils ont quand même tendance à nous assujettir et à atrophier et à s'emparer de choses que nous pouvions faire, certes moins rapidement, moins efficacement avant, mais de façon autonome. La capacité à ne pas dépendre de tous ces outils, à mon avis, va être quelque chose d'extrêmement important et de valorisable à l'avenir.
Jean-Yves, un mot sur l'avenir de vos petits-enfants ?
Ah bah, je pense que l'essentiel, c'est la formation fondamentale, la culture, la réflexion et la connaissance de la transmission du passé. Après, ils se débrouillons.
Ouais, après, ils se débrouillons, oui.
Voilà.
Alors, il nous reste 3 minutes pour sauver l'Europe, parce que le 7 avril dernier, donc le gratin de la finance était réuni à Washington, donc aux États-Unis, pour les réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et on y a présenté là-bas une intelligence artificielle qui s'appelle Mythos, et dont la société propriétaire a démontré qu'elle était capable d'identifier et d'exploiter en une fraction de seconde, toutes les failles de cybersécurité des infrastructures avec lesquelles travaille l'ensemble des banques du monde, et en fait de tout, les entreprises, enfin tout. Et ça a jeté un certain froid, et dans la foulée, les grands dirigeants des grandes entreprises américaines et exclusivement américaines, il y avait Apple, Google, JP Morgan, etc., se sont réunis avec les gens de Anthropic qui ont créé l'intelligence Mythos pour faire face aux menaces et essayer de se doter, eux, des contre-mesures, des pare-feux. Quoi, voilà. Et la question, c'est que les Européens demandent à accéder, à la Commission notamment, la Commission européenne a demandé à en savoir plus, mais pour l'instant, on leur a dit « bientôt ». Mais bientôt, c'est en temps d'intelligence artificielle, bientôt, c'est ce que disait Xavier, si c'est 3 mois, ça sera déjà bientôt périmé. Alors, comment, à votre avis, faire en sorte que l'Europe, et notamment la France, ne soit pas à la merci ? Parce que là, l'ennui, c'est que même si Mythos est plein de bonnes intentions, on va confier la sécurité des banques et des entreprises et des outils stratégiques français à une boîte américaine.
Déjà le cas.
Oui, non, mais d'accord, mais là, ça sera un point intégral, c'est-à-dire c'est une servitude absolue, non ? Donc, est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il n'y a pas de solution ? On a 1 minute et demie. Bon, ça va être un peu court. Hein. On va peut-être...
Eh bien, bon. Je pense qu'il faut lancer une espèce de plan calcul européen qui permet, en 15 ans, de bâtir une industrie très solide. Voilà, donc c'est foutu. Non, parce qu'on a besoin, en fait, de toute l'électricité nucléaire française pour faire véritablement fonctionner un modèle, des modèles d'intelligence artificielle. On aurait besoin d'avoir développé un Google et des réseaux sociaux européens pour pouvoir entraîner sur nos données et pas être victime des Américains. En fait, il faudrait revenir sur 40 ans de dépendance américaine. C'est fichu. Les Chinois l'ont fait. L'Europe a refusé de le faire. Et ce que l'Europe commençait à faire, non seulement les Européens l'ont en partie saboté, comme Galileo, mais en plus les Américains ont contribué à le saboter, comme par exemple Galileo. Donc autrement dit, tout est fait en fait pour que nous soyons totalement dépendants des technologies américaines, et les Européens continuent aujourd'hui, et on le voit par exemple avec l'intelligence artificielle, à considérer que l'électricité nucléaire ne serait pas considérée comme la bonne électricité pour produire le courant nécessaire à entraîner à nourrir les centres de données. Donc on continue à se tirer des balles dans le pied en permanence.
Bon, et bien sur ces propos plein d'optimisme, d'encouragement, on va essayer peut-être de réfléchir à des réponses plus positives. Je ne sais pas si elles existent. Hein. Peut-être
Ursula,
que vous avez,
si tu nous écoutes,
malheureusement,
appelle-nous.
Raison. Mais voilà, en attendant, notre émission s'achève. Rendez-vous demain avec Richard de Sèze, mercredi avec Arthur de Vatrigan, et ainsi de suite. Et rendez-vous lundi avec votre serviteur pour un nouveau Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.